Wolfgang, thank you for hosting all of us. It's always a great pleasure to be
Merci
here
beaucoup, at Wolfgang. Merci de nous permettre d'être ici présents à la conférence sur la sécurité. C'est toujours un bon moment, mais particulièrement aujourd'hui, parce que c'est un moment crucial. Nous nous trouvons face aux plus grands enjeux dans notre génération. Donc, c'est bien d'être réunis pour faire face en commun à ces défis. Depuis presque 70 ans, le partenariat entre l'Europe et l'Amérique du Nord est un garant pour la paix, la liberté et la prospérité. C'est elle qui nous a permis de dissuader l'Union soviétique avec succès et de mettre un terme à la guerre froide. Et ce partenariat nous a également rendu possible l'intégration de l'Europe. Les responsables européens ont toujours compris que cela ne sert à rien de vouloir faire cavalier seul. Après deux guerres mondiales qui ont été lancées à partir de l'Europe, les responsables américains ont compris que c'est aussi dans leur intérêt stratégique profond d'avoir une Europe stable et sécurisée. La seule fois qu'on a invoqué l'article 5, la clause d'assistance collective, c'était après un attentat commis contre les États-Unis, à savoir l'attentat du 11 septembre. Et cela était beaucoup plus qu'un seul geste. Des centaines de milliers de militaires européens et canadiens ont servi en Afghanistan au cours des 16 dernières années. Environ un millier parmi eux ont dû payer le prix ultime. Ce pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord, qui est incarné par l'Alliance de l'OTAN, reste essentiel pour les deux côtés. L'Europe a besoin de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Nord a besoin de l'Europe. C'est ensemble que nous réagissons à un environnement de sécurité qui est en train de changer. L'OTAN a mis en œuvre le plus grand changement de notre défense collective depuis la guerre froide. Notre réponse est défensive et mesurée. Il ne s'agit pas de provoquer des conflits, mais plutôt de prévenir des conflits et de préserver la paix. Afin d'assurer la sécurité de nos populations, l'OTAN garantit également la stabilité au-delà de nos frontières. En réagissant aux turbulences aux frontières de l'OTAN au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, l'Alliance assiste les pays partenaires pour entraîner les forces de sécurité comme en Jordanie et en Tunisie, puisque lorsque nos voisins sont plus stables, nous aussi, nous sommes mieux sécurisés. Depuis plus d'une décennie, nous conduisons l'engagement international en Afghanistan. Nous entraînons les forces afghanes afin qu'ils puissent assurer la sécurité de leur pays et éviter un refuge sûr aux terroristes internationaux. Les alliés de l'OTAN font partie aussi de la coalition anti-Daesh conduite par les États-Unis et nos avions de surveillance AVAX fournissent également un soutien et nous avons lancé un programme d'entraînement et de renforcement de capacités, mais l'Alliance peut et devrait faire plus. Entraîner les forces locales est le meilleur outil dans le combat contre le terrorisme. Et nous avons beaucoup d'expérience en la matière, des structures qui ont fait leurs preuves, la capacité de coordonner les efforts de plusieurs nations. Et il y a 40 partenaires volontaires assistés. Et ceci nous donne une capacité de durée à notre alliance. Et c'est vraiment essentiel, puisque la stabilisation de nos voisins et la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est un effort apporté par toute une génération. La capacité de notre alliance de donner suite à toutes ces missions dépend aussi des contributions des alliés. Les Européens ne peuvent pas exiger des États-Unis de s'engager en faveur de la défense de l'Europe si l'Europe elle-même n'est pas disponible à s'engager pour l'Europe. En 2014, les alliés ont été assis autour d'une une même table, on se regardait dans les yeux et on était d'accord pour investir davantage dans le domaine de la défense. Nous l'avons entendu, le vice-président Pence et la chancelière Merkel l'ont souligné ce matin. Il est important d'avoir des investissements plus importants dans la défense et d'avoir un partage du fardeau plus équitable. C'est bon pour l'Europe et c'est bon pour l'OTAN. Je me félicite de l'engagement de la chancelière Merkel d'augmenter les dépenses de la défense en Allemagne. C'est une contribution essentielle à la liberté, à la paix et à la sécurité en Europe. Un partage du fardeau plus équitable est ma première priorité depuis que j'ai pris cette fonction. En 2016, les dépenses de la défense, après plusieurs années de réduction, ont augmenté en Europe et au Canada en termes réels de 3,8%. Au total, il s'agit de 10 milliards de dollars. C'est donc un pas en avant essentiel dans la bonne direction, mais cela ne suffit pas. Il y a encore un long chemin devant nous. Tous les alliés doivent accélérer leurs efforts afin d'atteindre l'objectif de 2% des dépenses du produit intérieur brut pour la défense. Mais le partage du fardeau ne se limite pas seulement aux dépenses, mais il s'agit d'unités bien entraînées et de capacités sophistiquées pour les opérations de l'OTAN. Il s'agit de la volonté politique de se défendre mutuellement. Donc, la présence avancée renforcée de l'OTAN est un exemple du partage du fardeau. Quatre groupements tactiques de 15 pays européens sont déployés aux États baltes et en Pologne, et c'est un signe clair de la solidarité. Une défense forte européenne contribue également à un partage du fardeau plus équitable. Federica Mogherini et moi-même, nous coopérons étroitement afin d'assurer qu'il y ait une défense plus forte au niveau européen qui soit complémentaire à l'OTAN et non pas en compétition. Et nous coopérons très bien dans ce but. Donc, tant que l'OTAN et l'Union européenne sont complémentaires et non pas en compétition, je m'en félicite, puisque une Europe plus forte ne peut pas dire que l'Europe doit tout faire tout seul, comme je crois aussi que America First ne signifie pas America Alone, l'Amérique toute seule. Aussi, donc, le cœur de notre lien transatlantique, l'OTAN est forte puisque nous sommes unis. Nous sommes une alliance de 28 démocraties. Les discussions font partie de notre ADN. Bien sûr, il y a des divergences, mais cela ne donne pas lieu à des peurs. Les débats ouverts ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force. Ce qui compte, c'est que les responsables politiques des deux côtés de l'Atlantique et à travers l'ensemble du spectre politique, soit d'accord de notre cœur de métier, à savoir nous défendre les uns les autres, préserver notre liberté et protéger nos valeurs. Mesdames et messieurs, le traité de Washington, le traité fondateur de l'OTAN, engage les alliés à combattre ensemble afin de préserver la paix et la sécurité. Voici donc le libellé de ce traité. Et ce sont des mots qui ont été créés par une génération qui a connu les terreurs de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Gens qui ont pensé que l'histoire n'était pas prédéterminée et qu'il était nécessaire d'avoir un ordre international caractérisé par la paix et fondé sur des institutions fortes et multilatérales. L'histoire de l'OTAN est une possibilité d'affronter les défis ensemble. Mais la question est de savoir si on est capable de faire preuve de la même ambition, des mêmes idéaux et de ceux qui ont mis sur pied nos institutions il y a longtemps. La génération après-guerre a relevé ses défis à l'époque et maintenant c'est à nous de relever nos défis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Il nous reste le temps pour quelques questions.
Malheureusement, l'heure avance très vite. Le créneau que nous a accordé n'est pas très large. Donc, je voudrais bien revenir à la question du fardage, du partage du fardeau. Je pense que tous ceux qui sont ici présents comprennent très bien la décision qu'on a prise au pied de Galles et qui a été confirmée à Varsovie à la suite. Donc, je pense que beaucoup sont d'accord pour dire qu'il faut faire plus. Ça ne fait pas l'objet des disputes. Mais ma question est, qu'est-ce que cela signifie et quelles sont les conséquences potentielles de ce que je désignerai le Trump's ultimatum, l'ultimatum de Trump. Donc, si on n'atteint pas cet objectif, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura des conséquences à ce moment-là? Est-ce que la délégation américaine a expliqué ce qui se passera si, à la fin de l'année, tous les partenaires n'auront pas réagi comme on le souhaite? Bon, moi, je voudrais me concentrer sur ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre nos promesses, à savoir tenir nos promesses communes de 2014. Il ne s'agit pas que les États-Unis imposent à l'Europe d'augmenter leurs dépenses de la défense, mais les alliés, les 28 alliés, y compris les 27 alliés européens, tous ceux qui étaient autour de la table et qui étaient d'accord d'augmenter les investissements face aux dangers dans le monde. Donc, il est important que c'est dans l'intérêt de l'Europe d'investir davantage dans la défense. Et un point positif, même si le chemin sera long et même si aujourd'hui 5 pays ont atteint seulement le but de 2%, mais l'important, c'est qu'on s'est mis sur le chemin. On a donc décidé de mettre un terme aux réductions et d'augmenter successivement les dépenses pour arriver à 2% en 2024. En 2015, nous avons arrêté les réductions. 2015 était la première année depuis longtemps qu'il n'y ait plus eu de réduction des budgets de la défense. En 2006, il y a eu une croissance sensible, 10 milliards de dollars, presque 4% réel, donc deux pas importants, la fin des réductions et le début d'une croissance sensible. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Le chemin sera long, mais c'est encourageant de voir qu'on a commencé d'aller dans la bonne direction. Aujourd'hui, je me concentre donc sur la question de savoir comment on peut y continuer sur ce chemin, mais je suis optimiste parce que je vois la volonté dans les capitales européennes, aux États-Unis et au Canada. Merci beaucoup. Il y a eu une question de la part d'un participant russe. Merci beaucoup, Konstantin Kozachev. Je suis un parlementaire russe. Monsieur le secrétaire général, en tant que russe, j'étais confus lorsque je vous ai écouté, tout simplement parce que vous n'avez pas seulement parlé au nom de l'OTAN, mais au nom de l'ensemble de l'Europe. Pour moi, la Russie et d'autres États européens sont également des États européens tout à fait normaux, comme les membres de l'OTAN. Mais vous l'avez toujours dit, l'Amérique du Nord a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de l'Amérique du Nord, etc. Il y a deux grandes organisations européennes, le Conseil de l'Europe avec 47 États et l'OSCE avec 56 États membres, la plupart de l'Europe. Et pour moi, c'est un bon format pour discuter les questions de la sécurité en Europe notamment. Je pense que l'OTAN s'occupe beaucoup d'elle-même et de dire que l'OTAN voudrait parler pour l'ensemble de l'Europe, c'est un obstacle pour la coopération avec l'Europe et pour le dialogue au sein de nos grandes institutions de sécurité, le Conseil de l'Europe et l'OSCE ou l'Europe parlent d'une seule voix, contrairement à la manière de procéder dans les autres organisations. Donc pour moi, l'OTAN, c'est une bonne chose, probablement pour les alliés de l'OTAN, mais c'est mauvais pour la sécurité européenne parce qu'elle n'arrive pas à unir l'Europe, mais elle divise l'Europe et elle divise la sécurité parce que pour certains pays, il y a des conditions meilleures que pour d'autres pays. Quelle est votre vision de la chose? Bon, tout d'abord, je crois que les liens transatlantiques forts sont bons pour l'ensemble de l'Europe puisque c'est une contribution à la paix et à la stabilité en Europe et c'est une bonne chose pour l'ensemble des pays européens. Et l'OTAN comprend 28 alliés, c'est vrai, et je représente ces alliés. Mais l'OTAN est forte parce que nous avons plus de 50 États partenaires. Nous coopérons étroitement avec des pays du Nord, comme la Suède et la Finlande, qui se félicitent également d'un lien fort transatlantique. Nous travaillons également, nous coopérons aussi avec des pays dans les Balkans qui ne sont pas forcément des alliés de l'OTAN. Nous coopérons également avec l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN, mais qui souhaite un partenariat fort et un lien fort transatlantique. Donc, je suis convaincue que les liens transatlantiques forts sont importants pour les 28 alliés, mais aussi pour la stabilité et la paix en Europe. L'OTAN a rendu possible l'élargissement de l'Alliance après la guerre froide et ceci a proposé un cadre pour l'ouverture de l'Union européenne. Et les deux sont importants pour rendre plus fort l'Europe et pour créer la paix. Il y a eu une question tout au fond de la salle. Campbell?
Oui, Lord Campbell.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Eh bien, dans cette discussion, quelle est votre réponse à la question suivante? Donc, il ne s'agit pas tellement du montant des dépenses, mais de la manière comment dépenser cet argent. Et en plus, il faut y penser les 2%. Bon, c'est un objectif minimal. Et c'est ainsi qu'il faudrait l'interpréter. Madame Merkel a parlé tout à l'heure de projets communs d'acquisition. Donc, nous avons deux principes, interopérabilité et spécialisation des forces armées, afin que l'Europe puisse couvrir l'ensemble de la panoplie des missions. Bon, je partage parfaitement votre avis. Il est important comment dépenser l'argent en 2014. Les 28 chefs d'État et de gouvernement n'ont pas seulement décidé de dépenser plus, mais de mieux dépenser. Il faut faire les deux. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais il faut mieux dépenser les 2%. Donc, les deux sont essentiels. Il faut augmenter les dépenses de la défense, mais il faut aussi mieux coordonner ce qu'on fait et le rendre plus efficace. Bien sûr, on peut gaspiller beaucoup d'argent dans le domaine de la défense si on dépense mal et un grand enjeu en Europe, c'est la fragmentation de nos industries d'armement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, aux États-Unis, il y a un seul type de char de combat et en Europe, 5 types différents. En Russie, il y a un, aux États-Unis, il y a un seul véhicule d'infanterie de combat et 14 en Europe. Et aux États-Unis, on peut faire donc des économies d'échelle. Et en Europe, on n'y est pas encore arrivé. Je le sais, j'ai été Premier ministre et une de mes premières décisions en 2000, ça a été de dire, lorsqu'on a acquis de nouvelles frégates pour la Norvège, de ne pas acheter des frégates norvégiennes parce que ça coûtait plus cher, mais on a acheté des frégates espagnoles. Voilà une raison pour laquelle j'ai perdu les élections dans la même année. Et à la suite, j'ai acheté le matériel au Norvège. J'ai gagné les élections. Voilà la question cruciale. Donc, intégrer l'industrie d'armement, ce n'est pas évident, mais il faut le faire pour mieux dépenser l'argent. Jens, il y a beaucoup de demandes de parole. On pourrait continuer encore pendant longtemps, mais malheureusement, le chrono qui nous a été accordé est arrivé au bout. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. And again, without interrupting the meeting, we will continue.